VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
17h en temps universel, bonsoir et bienvenue. Accusation de viol de militaires français sur des mineurs en Centrafrique, la justice française accélère. Ce jeudi, le procureur de la République à Paris a annoncé que des juges d'instruction vont enquêter sur cette affaire. Nicolas Pinault.
Oui, le procureur François Molin explique que l'information judiciaire a été ouverte pour viol sur mineur par personne abusant de l'autorité conférée par leur fonction et complicité de ce crime. Dans cette affaire, 14 militaires français sont mis en cause. 3 ont déjà été identifiés par les témoignages de 6 enfants centrafricains âgés entre 9 et 13 ans au moment des faits. Ces militaires français faisaient partie de la force Sangaris déployée à l'aéroport Mpoko de Bangui. C'est la deuxième fois que le parquet de Paris s'intéresse à cette affaire. Après avoir été saisi par le ministère français de la Défense, le parquet avait ouvert une première enquête préliminaire fin juillet 2014. Aucun enfant ni aucun militaire mis en cause n'avait été entendu. Dans son communiqué, le parquet explique qu'il a d'abord voulu entendre la fonctionnaire de l'ONU, rédactrice du rapport, mais que la demande de levée d'immunité nécessaire à cette audition a été refusée par les Nations Unies. La fonctionnaire onusienne a finalement répondu par écrit et cette réponse est arrivée le 29 avril, selon le parquet.
Au Burundi, 4 personnes ont été tuées aujourd'hui, dont une dans la commune de Gisozi. C'est le premier décès hors de la capitale, secouée depuis plusieurs jours par des manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Idriss Fall a joint sur place notre confrère Léon Massengo. Il est de la radio Bonisha.
Les manifestations contre la troisième candidature de Pierre Nkurunziza ont continué. Ce jeudi, 4 personnes sont mortes. 2 personnes dans la commune urbaine de Chibitoki, dans le nord de la capitale Bujumbura, emportées par les explosions de grenades selon les témoins et la police. 7 personnes ont été grièvement blessées au cours de ces explosions. Une personne est morte dans une scène de justice populaire à Nyakabiga, soupçonnée d'être un jeune Imbonerakure du parti au pouvoir. Ce jeune a été lancé, puis tué dans une pluie de jets de pierre avant d'être brûlé en pleine journée. 4 ministres se sont déplacés pour appeler au calme, à l'apaisement dans la province de Moaro. Un élève de 16 ans est mort tué par des balles tirées par un policier lors d'une manifestation. Plusieurs routes étaient et bloqué ce jeudi dans les quartiers de la capitale Bujumbura. 2 véhicules ont été brûlés parce que les chauffeurs n'ont pas obéi à leurs ordres.
Léon Massengo, de la rédaction de Radio Bonesha au Burundi. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-chef de milice Charles Blé Goudé, accusé de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011, va s'ouvrir le 10 novembre. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Cour pénale internationale. Le procès de M. Gbagbo devait initialement s'ouvrir à la mi-juillet, mais il avait été reporté après que la CPI eut décidé de joindre les poursuites contre M. Blé Goudé à celle de l'ancien président. Les éléments de preuve étant en grande partie les mêmes, l'ancien président est accusé d'avoir fomenté une campagne de violence pour tenter en vain de conserver le pouvoir. Charles Blé Goudé est accusé, lui, d'avoir œuvré étroitement avec Laurent Gbagbo et d'autres membres de son entourage immédiat pour exécuter un plan commun dont le but était de maintenir l'ex-chef d'État au pouvoir. Au Bénin, une vingtaine de personnes ont été interpellées hier à Cotonou lors d'affrontements entre la police et des manifestants proches de l'opposition béninoise. Le calme est maintenant revenu dans la capitale économique du Bénin, mais un des responsables de l'opposition interrogé par l'AFP a promis de nouvelles actions dans les jours à venir. La manifestation de mercredi avait été interdite par les autorités, mais des centaines de manifestants étaient quand même descendus dans les rues du centre-ville. Un important contingent de forces de l'ordre les y attendait, qui ont fait usage de gaz lacrymogène et ont reçu des jets de pierre en retour. En Guinée, des heurts ont opposé aujourd'hui les forces de l'ordre guinéennes et les jeunes manifestants à l'appel de l'opposition contre le calendrier électoral à Conakry. Ces violences interviennent à la veille d'une rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de l'opposition, l'ex-premier ministre Selou Daline Diallo, après plus d'un mois de bras de fer. Une rencontre incertaine selon l'opposant Selou Daline Diallo. Il affirme que les forces de l'ordre qui encerclent sa maison l'empêchent de sortir de chez lui. Le domicile de l'opposant Sidia Touré est également cerné par les policiers. On écoute Selou Daline Diallo.
Avant-hier, lorsque j'ai reçu l'invitation, je me réjouissais plutôt pour pouvoir le rencontrer et discuter justement des divergences qui nous opposent, non seulement par rapport au processus électoral, mais par rapport à certaines questions relatives à sa gouvernance. Mais compte tenu de la séquestration dont j'ai été l'objet aujourd'hui, ma famille, moi et mes collaborateurs, et comme les autres leaders de l'opposition, comme Sylvia Touré, vraiment, je me pose la question sur l'opportunité de répondre à cette invitation. Ce n'est pas un bon signal. On ne peut pas inviter le chef de file de l'opposition et le faire séquestrer.
Le chef de file de l'opposition guinéenne, c'est Lou Dalène Diallo, au micro de Nicolas Pineau. La justice égyptienne va se prononcer le 4 juin au sujet d'un appel du parquet contre l'abandon des charges dont avait bénéficié l'ancien président Hosni Moubarak dans l'un de ses procès. En novembre, un tribunal avait blanchi l'ancien chef d'État en retirant l'accusation de complicité de meurtre pour la mort de centaines de manifestants durant la révolte de 2011, l'ayant chassé du pouvoir.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé un nouveau gouvernement de coalition. Le cabinet a été annoncé hier soir après un accord de dernière minute avec l'extrême droite, juste avant l'échéance de minuit. Félix Yepassi-Zembrou.
La formation du nouveau gouvernement intervient après 7 semaines de négociations. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a été désigné pour former le gouvernement après que son parti, le Likoud, eut défait aux élections de mars l'alliance de l'opposition menée par le parti travailliste. Le chef de file des travaillistes, Isaac Herzog, avait déjà dit qu'il ne ferait pas partie de la nouvelle coalition. Le nouveau gouvernement s'appuie sur une marge majoritaire d'un seul siège au Parlement avec 61 députés. Monsieur Netanyahou avait espéré former une grande coalition, mais son ancien allié de droite, le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a fait faux bond lors des négociations. En conséquence, M. Netanyahou a été obligé de s'allier avec les partis religieux ultra-orthodoxes et l'aile dure du parti Israël, notre nation, de l'ancien ministre de l'économie, Naftali Bennett, qui préconise l'expansion des colonies juives et l'annexion de la Cisjordanie palestinienne. Le nouveau gouvernement suscite peu d'espoir quant à une relance du processus de paix au Moyen-Orient. Celui-ci est au point mort depuis l'effondrement, il y a un an, de négociations parrainées par les États-Unis et la guerre de 50 jours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. La campagne électorale en Israël avait surtout porté sur les questions intérieures telles que la hausse du coût de la vie et l'écart croissant entre riches et pauvres.
Merci Félix. Les autorités américaines et saoudiennes ont convenu aujourd'hui d'une pause humanitaire au Yémen. Bagassi Koura.
Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue saoudien Abdel Al-Jubier ont indiqué que les efforts étaient en cours pour mettre en place un cessez-le-feu de 5 jours au Yémen afin de pouvoir acheminer l'aide humanitaire. Ce cessez-le-feu serait renouvelable en fonction des conditions sur le terrain, ont-ils précisé. Pour John Kerry, la trêve dépend largement de son acceptation par les rebelles
houthis.
Nous exhortons les houthis et ceux qui les soutiennent, à qui nous suggérons d'utiliser toute leur influence, de ne pas manquer cette importante opportunité de répondre aux besoins de la communauté yéménite et de trouver une solution pacifique au Yémen. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a reconnu qu'il n'y avait pas encore eu de contact avec les houthis pour savoir s'ils accepteraient le cessez-le-feu.
Ici aux États-Unis, le Sénat vote ce jeudi dans la perspective d'obliger le président Barack Obama à soumettre tout éventuel accord nucléaire avec l'Iran au Congrès cet été, affirmant ainsi le rôle de supervision des parlementaires malgré la réticence de l'exécutif. Un vote de procédure main capitale est prévu vers 18h GMT et selon le sénateur républicain Bob Corker qui gère la législation dite Corker-Menendez, l'adoption finale par le Sénat pourrait avoir lieu dans la foulée, bien que ce ne soit pas encore confirmé. Barack Obama s'opposait initialement à ce que le Congrès ait un mot à dire sur l'accord définitif qui doit être paraphé d'ici le 30 juin en Téhéran et le groupe 5+1. Les négociations reprennent le 12 mai à Vienne. Et pour terminer, la collecte massive de données téléphoniques opérée par l'Agence de sécurité nationale, la NSA, est illégale. C'est ce qu'a jugé aujourd'hui une cour d'appel des États-Unis, estimant qu'elle outrepassait le cadre fixé par le Congrès. Les lois sur les lesquels s'est appuyée la NSA pour mettre en place cette collecte n'ont jamais été interprétés pour autoriser quelque chose qui s'approche de l'ampleur de la surveillance généralisée en question ici, a estimé la justice américaine dans un document de 97 pages. Jean-Roger Billon à ce microphone. Prochaines informations, Le Monde aujourd'hui, c'est dans 20 minutes et ce sera avec Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Soyez au cœur de l'info.